Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours bien sûr, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis bien accompagnée par le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler de votre sommeil. Comment mieux dormir naturellement, sans somnifères, surtout en cette période compliquée que nous vivons tous en ce moment, on en a bien besoin. Alors pour parler de ce sujet, nous recevrons le docteur Patrick Lemoine, il est psychiatre, docteur en neurosciences, mais sa spécialité de clinicien de terrain, c'est le sommeil, ses troubles et leur prise en charge, et il viendra nous donner tous ses meilleurs conseils dans ce studio, le fruit d'une expérience de plus de 30 ans, au chevet de tous ceux qui souffrent de troubles du sommeil. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous allons faire un focus sur les travaux passionnants du professeur Eric Deutsch. Il est chef du département de radiothérapie à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif et il va nous expliquer comment, grâce à l'intelligence artificielle, on peut prédire l'efficacité de certains traitements contre le cancer et même faire de la radiothérapie ultra précise. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle s'intéressera à ces adultes qui, malgré leur âge, qui avancent, n'ont jamais eu de relations sexuelles.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Élise. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Il n'y a pas longtemps, il y a un ami à moi qui m'a parlé d'une maladie qu'il avait eue au niveau de son pénis. C'est une maladie qui s'appelle la maladie de l'apéronie, je crois. Je ne connais pas du tout, mais je me demandais si c'était contagieux, qu'est-ce que c'était.
Alors Jimmy, le syndrome de l'apéronie, pouvez-vous nous expliquer simplement ce qu'est ce souci qui touche donc le pénis?
Alors Mélanie, il ne vous a pas échappé qu'un zizi n'était pas droit de façon naturelle.
J'en sais rien, j'ai pas d'affirmation là-dessus, mais allez-y.
Générale, ouais. Il peut avoir une légère courbure. La seule chose, c'est que dans la maladie de l'apéronie, vous avez une véritable déviation du pénis qui va être associée à des douleurs durant l'érection. Ça va rendre les rapports sexuels douloureux et la vie de ces messieurs un peu compliquée.
Et alors, on va rassurer Élise puisqu'elle pose la question, hein, c'est pas quelque chose de contagieux. Et est-ce que vous pouvez nous préciser un tout petit peu les causes finalement qui peuvent donc entraîner cette malformation, cette déformation plutôt, je dirais.
Exactement. Alors, on ne connaît pas bien la vraie cause de cette maladie. On a quelques hypothèses. On sait que dans la maladie de l'apéronie, d'ailleurs, ça a été découvert en 1743 chirurgien, le chirurgien de l'apéronie, qui forcément a donné son nom à la maladie. On sait qu'il y a un petit processus inflammatoire local qui va faire que vous allez avoir des cellules qui vont proliférer en excès et ça va entraîner une perte de l'élasticité de ce qu'on appelle le collagène. Le collagène, c'est ce qui est censé rendre souples certaines fibres. Et à ce moment-là, vous avez une rétraction des tissus qui va aboutir à la déviation du pénis.
Et pas toujours au même endroit sur la verge.
Exactement,
hein,
c'est pas toujours la courbure variée d'un homme à l'autre. Et on pense que l'hypothèse principale serait qu'à force d'avoir des micro-traumatismes répétés lors de rapports sexuels un peu vigoureux,
vif, quoi, ouais.
Et bien sur le long terme, ça peut déclencher cette maladie.
Très bien, bon, on va rassurer les gens, c'est quand même quelque chose de rare. Hein. À chaque relation sexuelle un peu vive, il n'y a pas ce genre de risque. Mais ça touche des hommes de quel âge, justement, en général?
Alors, en moyenne, les hommes ont entre 45 et 65 ans. Alors, vous dites, c'est rare, mais ce n'est pas si rare que ça.
Ah.
On estimait l'incidence à 1%, et finalement, nous allons autour de 5%.
Ah oui, quand même.
Et puis, dans certaines séries, notamment lorsqu'on a fait des autopsies à des cadavres, on monte jusqu'à 20%. Sans pour
autant. Après, il y a des degrés divers de gravité,
exactement.
J'imagine.
Oui, tous les hommes n'ont pas forcément.
C'est pas contagieux, on est d'accord.
Non,
hein,
ce n'est pas une maladie contagieuse, même si souvent le rapport sexuel devient forcément compliqué, car il y a des douleurs lors de l'érection et parfois même avant l'érection au repos.
Zut, et alors, est-ce que ça se traite? Zut, n'importe quoi, moi. Est-ce que ça se traite? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut proposer? Une intervention pour décourber dans l'autre sens?
Alors, pour bien comprendre, la phase inflammatoire dont je vous ai parlé va durer entre 12 et 18 mois, puis la maladie va se stabiliser. Et dans 30% des cas, vous avez une rémission quasiment complète de la maladie et la courbure s'arrête de progresser. Il existe certains traitements à base de crème anti-inflammatoire, de la vitamine E, et puis on peut faire aussi parfois des injections ou avoir recours à la chirurgie dans les cas les plus extrêmes, avec des chirurgies de réduction notamment de la courbure. Mais bon, parfois ça ne marche pas et puis bon, ça fait un peu mal quand même.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va prendre une deuxième question, celle que nous a laissée Émilie de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Écoutez bien.
Bonjour Mélanie et Jimmy, j'ai une petite question pour vous. Ça fait 3 jours que j'ai le nez bouché, un gros rhume. Mon pharmacien m'a filé de l'homéopathie Cicta pulmonaria 5CH à prendre 4 fois par jour. Mais ça ne fait rien, j'ai toujours le nez bouché. Est-ce que vous avez une solution pour moi ? Bonne émission.
Bon, c'était pas Émilie, c'était Émile. Petite erreur de frappe, vous l'avez compris, Jimmy. Alors, j'ai une petite idée un peu de ce que vous allez répondre, hein, je vous avoue. Il dit donc Sticta pulmonaria 5CH à prendre 4 fois par jour, ça marche pas trop, votre
alors,
avis ?
Alors, j'ai été voir dans mon grimoire d'Harry Potter pour savoir si le Sticta pulmonaria, je pensais que c'était un sort, je ne savais pas que c'était un médicament. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un médicament. Alors, il a dit 4 fois par jour.
Ouais.
Attention, si vous le prenez 3 fois par jour, ça marche de la même façon.
C'est-à-dire pas.
C'est-à-dire que, en fait, Voltaire avait dit que la médecine, c'est l'art qui consiste à distraire le malade en attendant que la nature fasse finalement son travail. En cas de rhinopharyngite, moi j'ai pas d'opposition à ce que les gens prennent de l'homéopathie.
Bien sûr,
c'est toujours mieux que de prendre des anti-inflammatoires ou des médicaments qui vont être nocifs pour la santé, d'autant plus que désormais l'homéopathie n'est plus remboursée et donc n'est plus à la charge du contribuable. Donc je n'y vois pas d'opposition.
D'accord, pas d'opposition, mais alors si on sort de l'homéopathie, il dit qu'il a un rhume, une rhinopharyngite, comme vous dites. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller de mieux, peut-être, enfin, ou quelque chose qui pourrait l'aider à guérir plus vite ?
Le seul conseil utile que je peux lui donner, c'est de se faire tester pour le Covid.
Ah,
puisque,
ben
avec
oui.
notamment le variant anglais, les symptômes sont un peu différents.
Ça peut ressembler à un rhume. Hein.
Exactement, ça peut être une simple rhinopharyngite. Et on a constaté qu'il y avait moins de perte de goût et de l'odorat, notamment avec le variant anglais. Ce qui veut donc dire qu'un nez qui coule doit vous amener systématiquement à un test antigénique au minimum, voire une PCR. Et puis pour le reste, on prend un peu de paracétamol, du thé, du miel, du citron. On se lave le nez, et en particulier ceux des enfants, puisque les enfants qui sont enrhumés vont faire derrière une otite. Et à l'âge adulte, on peut faire des sinusites. Lavage de nez, repos,
et
Doliprane.
Ça passe en combien de temps si on ne fait rien ?
Alors, en ce moment, j'ai l'impression que les organismes sont un peu affaiblis. Toute rhinopharyngite est assez bruyante, assez brutale. Et les gens mettent du temps avant de s'en remettre. Une bonne semaine au minimum en cette période. Et peut-être que d'ici quelques temps, ça ira mieux.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Émile qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Patrick Lemoine. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et vous êtes également l'auteur du livre « Docteur, j'ai mal à mon sommeil pour dormir naturellement » qui est paru chez Odile Jacob. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, des ouvrages sur le sommeil, vous n'êtes pas à votre coup d'essai on va dire parce que vous en avez écrit beaucoup, mais celui-ci, le dernier, je crois que vous dites que c'est le livre ultime sur la question, c'est ça ?
C'est vrai, parce que j'ai la chance d'avoir un bon éditeur qui m'a permis de me lâcher et de dire tout le mal que je pensais des médicaments soi-disant somnifères ou hypnotiques et tout le bien que je pensais des méthodes que je dirais physiologiques, c'est-à-dire naturelles.
Bon, on a bien compris qu'il n'y aura pas de langue de bois dans cette émission.
Hein. Exactement.
On va commencer par la base pour bien démarrer. On sait tous ce que c'est le sommeil, mais est-ce que vous pouvez le définir ? Car finalement, ce n'est pas si évident que ça.
Saint-Augustin a dit « Si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je sais ce qu'est le temps. Et si tu me le demandes, je ne le sais plus. » Sommeil, c'est un peu pareil. Quand on demande à le définir, ce n'est pas évident. Donc en gros, c'est une perte de conscience. Hein. Réversible, parce que si je fais ça, ça va réveiller le dormeur. Si c'est un comateux, ça ne va pas très bien marcher. Ça repose. Et surtout, c'est cyclique. C'est-à-dire, je ne dors pas n'importe quand. Ouais. 4 critères, donc.
C'est important de définir. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. On a l'impression qu'on sait, mais je n'avais pas réalisé à ce point-là. Alors, d'ailleurs, est-ce que tous les êtres humains, c'est-à-dire nous les êtres humains, on dort, mais est-ce que les animaux, tous dorment eux aussi ou pas ? Est-ce que certains, comme nous, même manquent de sommeil, peut-être ?
Mais même votre géranium sur votre balcon dort.
Ah oui, donc on est même plus dans dans le monde végétal. Ouais.
Absolument, les bactéries ont des phases de repos et d'activité.
Mon chat, je le vois, il dort beaucoup. Mais...
Oui, mais lui, il dort n'importe quand, ce qui est assez rare. Alors que votre chien, il dort la nuit.
Je ne sais pas.
Oh, pourtant, vous manquez
mais dans
pas
le monde
de chien.
Animal...
Vous pas de chien, pourtant. Mais...
c'est marrant, parce que dans votre livre, vous parlez justement, il y a deux animaux pour lesquels on a un doute, le crapaud buffle et le poisson corail.
Le poisson corail, mais c'est un tout petit doute et on n'est pas sûr. En fait, le seul animal pour lequel il y a une certitude, c'est très récent, c'est une variété de mouches drosophiles où il y a une toute petite population au niveau de ces drosophiles qui arrive à ne pas dormir du tout. Comme si l'évolution avait prévu pour la survie de l'espèce qu'il fallait qu'il y ait un petit contingent qui soit tout le temps vigilant, parce que c'est des animaux vulnérables, c'est des proies.
Est-ce que certains manquent de sommeil comme nous,
Les animaux domestiques, oui, certainement. Et puis dans nos jardins, lorsqu'on met des éclairages solaires, par exemple des choses comme ça, la pollution lumineuse peut les perturber. Et certains auteurs vont jusqu'à dire que la pollution lumineuse concerne toute la planète. C'est-à-dire même en haut de l'Himalaya, au milieu de l'océan, il y a quand même quelques photons. Et donc, on peut imaginer que les photons de Paris vont perturber un bonobo au milieu de sa forêt vierge.
Alors justement, pour venir un petit peu aux humains, vous racontez une expérience assez incroyable dans votre livre, celle d'enfants trop petits à cause d'un sommeil perturbé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
C'est tout à fait étonnant. C'est une vieille observation, ce n'est pas une étude, qui se passe dans le Bronx, à New York. Et c'est une population portoricaine pauvre. Et c'est des gens qui font beaucoup la fête, les portoricains. Et les chercheurs sont aperçus qu'il n'y avait pas tout à fait d'énanisme, mais presque. Les gamins ne grandissaient pas. Il n'y avait pas de raison génétique. Ils mangeaient quand même à leur faim. C'était incompréhensible. Puis un jour, il y a un chercheur qui a une idée géniale. Il leur a juste mis des bouchons à oreilles.
Ah, tout simple.
Tout bête. Ouais. Et en 6 mois, ils avaient retrouvé une taille normale. Ah. Explication, c'est pendant le sommeil qu'on fabrique la totalité de l'hormone de croissance, qui permet aux enfants de grandir, aux fœtus, aux adolescents, et à nous de cicatriser, d'avoir une nuit réparatrice, de faire tout un tas de trucs dont on reparlera. Et ces gamins, comme ils dormaient dans un environnement très bruyant, ils n'atteignaient jamais les stades de sommeil dans profond, ils n'avaient pas d'hormones de croissance et ils ne grandissaient pas.
Bon, il n'y a aucune chance, si moi je mets des bouchons d'oreilles et si je dors plus, je ne vais pas plus grandir, on est d'accord. Hein.
Peut-être
ça marche
pas,
que chez les enfants.
Ça montre que votre grand-mère avait raison quand elle vous disait « c'est en dormant que les enfants grandissent ».
C'est vrai, c'est vrai. Alors vous dites dans votre livre également que dormir n'est pas un processus passif. Il se passe des choses incroyables la nuit, on répare même notre ADN.
Absolument, et ça c'est tout à fait étonnant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part du sommeil. Et ce qui est étonnant, c'est d'ailleurs qu'il y a, pendant les études de médecine, il y a 0 heure sur le sommeil. N'est-ce pas, Jimmy ?
Ah oui, c'est pas si loin pour lui, les études de médecine.
J'ai tout appris après mes études de médecine.
Ouais, ouais. Donc, il y a vraiment un manque phénoménal, puisque si on dort bien, on vivra vieux et en bonne santé. Pourquoi ? Parce que ce qui permet de prédire la longévité, c'est l'extrémité de nos rubans d'ADN, c'est des rubans. L'extrémité, on appelle ça d'un nom barbare, les télomères. Et s'ils se raccourcissent, s'ils s'effilochent, bah c'est qu'on vieillit. Et plus ils sont effilochés, moins on en a pour longtemps.
Et si on dort mal, ils sont très effilochés.
Dieu merci, toutes les nuits, on a des petites couturières, des ravaudeuses qui vont réparer, recoudre nos fragments d'ADN et nos télomères. Ça s'appelle des télomérases. Les télomères vont retrouver la forme et on vivra vieux et en bonne santé.
Il y a des petites fées du sommeil comme ça qui nous réparent
Absolument.
La nuit. C'est incroyable. C'est très joli en plus comme anecdote. Alors dans le même contexte, le sommeil permet aussi d'éliminer les toxines accumulées tout au long de la journée. Manquer de sommeil provoque donc des maladies, clairement.
Oui, parce que toute la journée, quand on parle, par exemple en ce moment, on fabrique des métabolites qui vont s'accumuler dans le filet qui entoure notre cerveau, qui s'appelle la glie, qui nourrit notre cerveau. Et ça s'accumule, il faut bien faire quelque chose. Et la nuit, quand on dort, il y a des grands mouvements de ce liquide qui baigne notre cerveau, qui embarque toutes les toxines. En gros, c'est les éboueurs.
Grand nettoyage.
C'est le grand nettoyage. Oui.
C'est incroyable tout ce qui se passe la nuit. C'est vrai que moi, je pensais que c'était un truc totalement passif.
Peut-être le plus important, c'est la reprogrammation immunitaire toutes les nuits. C'est-à-dire, toutes les nuits, on reprogramme notre système immunitaire, ou du moins, on fait des mises à jour.
Donc, c'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, si on dort bien, on peut se protéger un peu du coronavirus, par exemple.
Absolument. Hein, ouais. C'est-à-dire que ne pas bien dormir en ce moment, alors qu'il y a effectivement un risque de Covid, c'est risquer de ne pas mettre à jour notre système immunitaire. Mmh. Et donc, on favorise l'infection ou le cancer, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'il est bien montré que les gens qui ne dorment pas la nuit, comme malheureusement les infirmières de nuit, ont plus de cancer du sein.
Alors, on connaît tous l'expression « qui dort dîne ». Est-ce que cette expression est valable scientifiquement ? Dormir fait-il maigrir ? Et à l'inverse, si je ne dors pas, est-ce que je vais grossir ?
Alors, je voudrais juste rappeler que ce panneau qui était dans les auberges à la Renaissance disait que pour avoir le droit de dormir, il fallait avoir dîné. C'est une anecdote historique. Simplement, qui dort dîne ? Eh bien, oui et non. On sait quand même que c'est au cours de la nuit qu'on met à jour l'insuline et la leptine. Alors, c'est très simple. Une étude a été faite, on prend une trentaine de personnes en très bonne santé, jeunes, tout en forme, et moyennant finance, parce que c'est des sujets sains qui acceptent, on les empêche de dormir plus de 5 heures par nuit. Et au bout de 15 jours, ils sont prédiabétiques. Ça veut dire que leur insulinémie a baissé et qu'ils ont une résistance à l'insuline. Et si vous dormez mal et que vous avez le gène de vulnérabilité au diabète, vous risquez de basculer du côté du diabète. Quant à la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui dit à votre cerveau « plus faim ». Eh bien, c'est pendant la nuit qu'elle est sécrétée.
Donc, si on ne dort pas, on se réveille, on a très très faim.
Absolument. Absolument. Alors, c'est bien fait quand même, parce que la nuit, on ne mange pas quand on dort normalement, donc on a la leptine. Mais si on ne dort pas bien, la leptine est en déficit et on mange trop. Il est montré que les insomniaques sont beaucoup plus gros que les bons dormeurs.
Même chose si les matinaliers, hein, ils prennent tous un peu de poids le matin à la
ça
radio.
Ça dépend, mais ceux c'est assez fréquent. Tôt, ouais, c'est vrai.
Prennent quelques kilos. En
fait. Vous êtes un petit clin d'œil à Mathieu Béliard, là.
Il y a un petit biais, c'est que les journalistes, en général, sont du soir. Et quand on les fait travailler le matin, ils souffrent beaucoup et ils ont effectivement une dette de sommeil. Et effectivement, ils grossissent.
Dernière chose qu'on apprend dans votre bouquin, enfin non, on en apprend beaucoup, mais pour le moment, ce sera la dernière. Manquer de sommeil peut aussi perturber notre microbiote et notre tension artérielle.
Tout à fait. Alors, la tension artérielle, c'est facile à comprendre. La nuit, on se calme quand même, donc on baisse la tension artérielle, le cortisol, la noradrénaline, donc le stress. Donc on peut également être anxieux ou déprimé si on ne dort pas bien. Enfin, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, d'ailleurs, parce que si on est déprimé, on ne dort pas bien non plus. Mais également, on baisse la tension artérielle et si on ne dort pas bien, on finit par plus la baisser assez et on a ce qu'on appelle une tension artérielle, hypertension artérielle systémique, qui va s'installer définitivement.
Docteur Lemoine, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Patrick Lemoine. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et puis vous êtes également l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui, Docteur, j'ai mal à mon sommeil pour dormir naturellement, qui est paru donc aux éditions Odile Jacob. On va passer avec vous à présent aux problèmes de sommeil, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse. De nombreux Français sont concernés. D'ailleurs, est-ce qu'avec les confinements, c'est une question qu'on se pose, les confinements, déconfinements, couvre-feu, enfin toute la panique et le stress qu'on subit depuis un an. Est-ce que vous avez observé qu'il y a déjà un impact sur le sommeil des Français? Est-ce qu'il y a plus de troubles en ce moment?
Malheureusement, oui, puisque le meilleur indicateur, c'est ces poisons qu'on appelle les somnifères qui ont augmenté d'un tiers dans leur vente, ce qui est énorme, c'est considérable.
Et on était déjà haut en plus, hein, je crois, en consommation.
Et les antidépresseurs ont doublé. Et aux États-Unis, ils ont triplé. Donc ça montre bien que Covid, confinement, égale trouble du sommeil, trouble de l'humeur. Ce qui est facile à comprendre d'ailleurs, parce que pour bien dormir, il y a deux critères. Il faut être, un, en sécurité, parce que nos ancêtres ne pouvaient pas bien dormir s'il y avait un tigre à dents de sable qui passait dans le coin. Et donc, ils avaient inventé un truc, c'est que les personnes âgées, les rares qui survivaient à cette époque, deviennent insomniaques, comme toujours aujourd'hui, parce que leur fonction, c'est de faire les sentinelles, de veiller sur le clan. Donc, si les personnes âgées ne dorment pas bien, c'est que leur fonction, comme elles ne peuvent plus travailler autant dans la journée, chasser, cueillir, etc., eh bien, il faut qu'elles soient les sentinelles.
Et donc,
deuxièmement, c'est dormir à son heure. En période de Covid, on a la trouille, parce que cette espèce de saloperie invisible qui peut nous sauter dessus malgré toutes les précautions, c'est quand même pas rassurant. Donc, beaucoup de personnes ont vécu dans la terreur depuis que le président a annoncé le confinement et la guerre.
Ouais.
Le terme qu'il employait. Puis deuxièmement, il faut dormir à son heure. Or, en période de confinement, on a perdu un grand repère qu'on n'a pas bien retrouvé après, c'est le travail et le déplacement pour aller au travail et pour revenir du travail.
Tout ça nous rythmait. Hein,
parce que le télétravail, en fait, on peut s'y mettre à l'heure qu'on veut. Et donc les gens ont tendance
On peut rester en pyjama.
Oui, aussi.
Donc on n'a plus de rythme.
Exactement. Et donc on a tendance à aggraver la façon dont on est construit. Moi, si je suis du matin, je vais me lever encore plus tôt pour travailler le matin, parce que comme ça, j'ai le lit dans la journée. Si je suis du soir, je vais travailler jusqu'à 2 heures du matin. Et ça, c'est une catastrophe.
Et justement, vous le dites, un de nos repères, c'est la lumière. Est-ce que lorsque la lumière et le soleil se couchent aux alentours de 18 heures et qu'on se couche vers 23 heures, minuit, ça va perturber notre horloge biologique? On va être en quelque sorte dans une forme de décalage de phase et un peu désynchronisé.
Bien sûr, le jet lag social, il a trois causes, parce qu'on a divorcé trois fois avec le soleil. Première fois, il y a 250 000 ans à peu près, lorsque un de nos ancêtres, Homo erectus, a inventé le feu. Donc les soirées autour du feu, style Yukaidi, Yukaida, les petits scouts. Deuxième divorce, c'est M. Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Alors là, c'est encore plus facile de se coucher tard, parce qu'il fallait allumer la chandelle, battre le briquet, c'était pas facile. Et troisièmement, c'est celui qui a inventé les écrans, et notamment, alors pas trop la télé, parce que d'une part, souvent les programmes sont soporifiques, et deuxièmement...
Tout le monde en prend pour son grade aujourd'hui.
On s'amuse aujourd'hui. Oui. En fait, pour être plus sérieux, on est à plus de 2 mètres en général de la télévision, et deuxièmement, le rayonnement bleu est assez faible. Donc on ne bloque pas l'hormone sécrétée quand il y a la pénombre, qui est la mélatonine, qui favorise le sommeil. En revanche, l'ordinateur, la tablette et le téléphone... sont une catastrophe.
Et la radio, c'est génial, parce qu'il n'y a pas tous ces problèmes.
Absolument.
Alors, les écrans font partie donc de nos voleurs de sommeil, on l'a compris. Pourtant, certains y sont exposés, parce qu'on est quand même presque tous exposés, et ne se plaignent d'aucun trouble. Comment on peut expliquer que certains, pour le coup, ce n'est pas un problème ?
Sauf que moi, quand je les enregistre, ceux-là qui disent « Oui, je dors bien, docteur, pourtant je regarde
mon iPhone jusqu'à
une heure
minuit,
du matin,
ouais.
deux heures, et quand j'enregistre leur sommeil, je vois que ce n'est pas bon du tout, et qu'un jour, ils vont le payer. De même, les personnes qui disent « Moi, je me couche avec une tasse de café, j'ai pas de problème. » Quand je vois leur enregistrement, ce n'est pas terrible non plus. On ne perçoit pas toujours.
Encore,
on ne perçoit pas toujours. En fait, un éveil, on s'en souvient que s'il fait plus de 3 minutes. Il y a des tas de gens qui s'endorment, ils se réveillent toute la nuit, mais ils ne le savent pas.
C'est très intéressant.
Alors, l'hormone clé dans le sommeil, vous dites plutôt dans le livre de la nuit, c'est la mélatonine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi ça sert ? Car elle n'a pas simplement qu'un rôle dans le sommeil, elle sert dans plein d'autres choses.
Eh oui. Et c'est vrai que j'en prescris larguin manu en ce moment parce que la mélatonine, elle est anti-âge, puisque c'est le plus puissant antioxydant qui existe, beaucoup plus que A, C, E, sélénium, zinc, tout ça. C'est vraiment un antioxydant.
On pourrait presque tous en prendre pour ses vertus antioxydantes au moins. Ouais.
Et c'est anticancéreux aussi. Il y a plein d'études qui sont sorties en cancérologie. Alors on ne va pas dire que c'est une chimiothérapie, mais comme adjuvant aux chimiothérapies ou radiothérapies, c'est de plus en plus préconisé. Et puis donc, c'est un booster immunitaire. Rappelez-vous que le président des États-Unis, quand il était hospitalisé pour son Covid, il a eu un cocktail, dont la mélatonine, qui en faisait partie. Donc, il y a tous ces aspects à côté. Et puis ensuite, c'est une hormone qui entraîne une dilatation des vaisseaux. Et chaque fois qu'il y a une dilatation des vaisseaux, ça abaisse la température. Or, le sommeil, c'est tout bête. C'est juste une histoire thermostat. Dans le cerveau, on a une horloge qui fait tic la nuit, ma température baisse, tac le jour, ma température remonte. Si ma température baisse, j'ai un bon sommeil et je fais mon hormone de croissance. Et si elle remonte, ben j'ai la pêche dans la journée et tout va bien.
C'est fou ce que ça paraît simple avec vous en tout cas.
Il suffit d'avoir 1,5 degré de différence entre le jour et la nuit et tout va bien.
Docteur Lemoine, qu'est-ce qu'on fait si, ça arrive à beaucoup de gens en ce moment, on se réveille dans la nuit, bon, c'est ceux qui ont typiquement des insomnies à 2-3 heures du matin, qu'on a impossibilité complète de se rendormir. Il vaut mieux quoi ? Se lever, bouquiner, enfin, c'est quoi la solution pour retrouver
si
le sommeil ?
Si vous voulez savoir ce que je fais moi,
oui,
quand ça m'arrive,
ça nous intéresse, hein,
c'est
oui.
tout bête. Ce n'est pas scientifiquement démontré par des études pharmacologiques. En revanche, c'est scientifiquement démontré par des études épidémiologiques. Savez-vous quel est le somnifère le plus consommé au monde ?
Aucune idée, non.
L'aspirine. Pourquoi ? Ça baisse la température, tout bêtement. Donc je prends la nuit soit un paracétamol effervescent, soit une aspirine effervescente. J'abaisse ma température. Pourquoi effervescence ? Parce que ça va plus vite. La biodisponibilité est plus rapide.
D'accord.
Et je me rendors rapidement. C'est pas classique ce que je vous dis. Et je vous dis, il n'y a pas d'études pharmacologiques.
Mais c'est testé par vous et par vos patients, j'imagine. Hein
ben, c'est le plus grand épidémiologiste du sommeil du monde qui s'appelle Maurice Ohayon, qui est à Stanford, dont je suis issu aussi, et qui a démontré sur plus de 50 000 dossiers que ce que prennent les gens, et dans les campagnes, on le sait ça, c'est l'aspirine qui est de loin la plus utilisée.
Bonne astuce en tout cas.
C'est fascinant. Alors, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, l'environnement sonore peut perturber le sommeil, mais est-ce qu'il pourrait y avoir certains bruits qui peuvent nous aider à nous endormir, et à l'inverse, d'autres qui vont le perturber ?
Absolument. Ce qui perturbe le sommeil, c'est le bruit discontinu. Le bruit continue, au contraire, favorise le sommeil. C'est-à-dire dormir à côté d'une cascade, à côté de
mon
la
bébé,
mer.
Mon bébé, moi, c'était l'aspirateur à une époque.
Oui, mais ça peut être même un périphérique. À la limite, c'est un bruit continu qui n'est pas très gênant. En revanche, un bruit discontinu comme un aéroport ou un immeuble bruyant est une catastrophe. Même si les gens vous disent « ça ne me réveille pas », le système cardiovasculaire ne s'habitue jamais. Et à chaque bruit, vous avez un coup d'hypertension artérielle. Et il a été montré que dans les immeubles bruyants, la tension artérielle moyenne des habitants est supérieure à celle des immeubles calmes.
C'est quoi le bon bruit que vous nous recommandez pour dormir si on un bruit agréable
Il y a des tas d'applications qui peuvent être téléchargées, qu'on peut écouter avec un écouteur.
Bruit de l'eau qui coule.
On appelle ça des bruits roses. À chacun son bruit en fait. Il y a des gens, c'est le bruit d'un peigne. Les gens, c'est l'eau qui coule. Je trouve que l'eau qui coule, c'est pas mal.
Ouais.
C'est pas mal. Ça peut être une berceuse. Ça peut être le bruit du cœur.
Donc on peut dormir avec de la musique ou du son qui nous perturbera pas, mais il faut que ce soit continu, c'est ça ?
Les bruits digestifs qui rappellent ce qu'on entendait quand on était des petits fœtus. Parce que les fœtus dorment et rêvent, c'est bien démontré maintenant. Donc en fait, il faut en tester plein.
Il faut trouver le sien.
Il faut en télécharger plein.
Mais ça marche bien.
Ça peut marcher bien, oui.
Très bien. Docteur Lemoine, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et il nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Patrick Lemoine. Je rappelle que vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et grand spécialiste des troubles du sommeil que vous prenez en charge depuis plus de 30 ans. Alors, vous dites dans votre livre que toute personne souffrant de troubles du sommeil devrait se voir prescrire sous forme de complément alimentaire de la mélatonine. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais tous.
Enfin, tous les insomniaques.
Oui.
Parce que les apnées du sommeil, par exemple, c'est une autre question.
C'est un autre problème.
Mais effectivement...
Si j'ai du mal à m'endormir, c'est pareil.
Comme c'est un complément alimentaire qui ne nécessite pas d'ordonnance, alors je suis très sceptique sur la mélatonine simple, qui est détruite en 20 minutes. Donc qui peut juste remettre les pendules à l'heure dans les cas de décalage horaire vers l'est ou pour les adolescents qui s'endorment trop tard. Autrement, c'est un peu du pipeau quand même. Mais la libération prolongée, la mélatonine à libération prolongée, qui va couvrir toute la nuit... Là, à mon avis, ça aide beaucoup. Et contrairement à ce qu'a dit l'Agence pour la sécurité alimentaire, qui a montré ses limites, pour ne pas dire son incompétence dans le domaine, il n'y a quasiment pas de contre-indication. Et à moins de le prendre, évidemment, à 5 heures du matin et de prendre la route juste après, au risque effectivement d'embrasser le premier platane qui traverse la route, c'est pratiquement sans danger et il y a très peu d'interactions médicamenteuses. Mmh.
Et vous dites que c'est cette mélatonine sous forme de complément alimentaire est disponible sans ordonnance, mais quelle est la différence entre cette mélatonine et celle que certains médecins peuvent prescrire sur prescription médicale ?
C'est plus fort.
Le prix.
C'est le prix. D'accord. Ok, c'est tout.
Le prix, parce que le médicament prescrit n'est pas remboursé, sauf pour les enfants qui ont des troubles autistiques ou des maladies rarissimes, syndrome de Rett, etc. Donc là, effectivement, c'est pris en charge, mais autrement...
C'est la même ?
Alors, elle est officiellement réservée aux gens de plus de 55 ans, parce qu'il n'y a que là qu'elle a été étudiée. Je sais bien, c'est moi qui ai fait l'étude en question, qui a permis d'avoir l'autorisation européenne. Donc, c'est des produits quand même sans souci, sans
problème. Donc, pas besoin d'avoir une ordonnance, en fait, vraiment. On peut aller voir
son pharmacien.
C'est mieux
de demander à son pharmacien. Ouais. Et puis, quand même, il y a tellement de causes physiques, il y a tellement de causes médicamenteuses, il y a tellement de causes psychiatriques à l'insomnie. Que
dont la dépression d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais
c'est le premier pourvoyeur, la dépression. C'est le premier pourvoyeur. 75% des insomnies sont d'origine psychique ou psychiatrique. Psychique, ça veut dire...
Il faut poser la question quand on dort mal, si on n'a pas un état dépressif.
Pour, disons, quelqu'un qui est normal, qui n'a pas de problème psychiatrique, qui se met à plus dormir, c'est en général l'attente d'un événement heureux ou pas. C'est-à-dire, je suis sûr, Mélanie, que la veille de votre mariage, vous n'avez pas bien dormi, parce que vous étiez super contente, super
excitée. Non, pas du tout, c'est vrai.
Ben oui, ça peut être aussi parce que demain, vous allez être convoqué pour un entretien préalable, etc. Donc, c'est l'attente d'un événement qui est un stimulant qui maintient éveillé. Je pense que dans un an et quelques... avant les élections présidentielles, il y en a deux, trois qui ne vont pas très bien dormir aussi.
C'est sûr.
C'est normal. Et là, d'ailleurs, je sais que j'enseigne à Pékin aussi. En Chine, l'insomnie, c'est normal. C'est comme quand vous faites aïe que vous tapez contre un meuble, c'est normal. Donc c'est l'adaptation à un stimulus prévisionnel.
Alors on a peut-être des auditeurs qui nous écoutent et qui, bon, même si c'est normal, sont pas bien et se disent, bon ok, j'ai un trouble du sommeil, j'ai beaucoup d'insomnie, docteur, je dois aller voir qui ? Alors, généraliste, si, ou un spécialiste du sommeil ?
Si ça dure, on voit d'abord son généraliste qui va éliminer une maladie. Parce qu'il y a des tas de maladies physiques dans... 10-15% des insomnies, comme, je sais pas moi, un diabète, une hyperthyroïdie, un problème au niveau de la sécrétion du cortisol, une fièvre, n'importe quelle douleur, tout ça, ça peut donner des insomnies.
Donc le généraliste.
Parfois, c'est un médicament. Donc si on se met à plus bien dormir et qu'on a un nouveau traitement, il faut y penser. Contre la tension, contre le Parkinson, contre la dépression. Il y a plein de médicaments aussi. Toutes les drogues, alcool, nicotine... cocaïne, etc. Il y en a qu'une qui fait dormir, c'est l'héroïne. Le problème, c'est que parfois, elle fait dormir définitivement.
Oui, c'est ça.
Ça parce que ça provoque des apnées phénoménales qui s'appellent des overdoses. Et le hashish, lui, soit il excite, soit il fait dormir. C'est imprévisible. Et de toute façon, c'est une telle catastrophe, puisque ça rend idiot les enfants. Leur QI, et ceux qui prennent du hashish, est inférieur à ceux qui n'en prennent pas. Donc, je suis très hostile.
Peu de conscience intellectuelle et peu de sommeil, donc on n'en fait pas la promotion, évidemment.
On élimine tout ça, et à partir de là, si on est vraiment dans des causes d'insomnie où il n'y a pas de cause, justement, là, on peut y aller avec la mélatonine, etc.
C'est là qu'on va avoir le spécialiste du sommeil aussi.
Alors, pour parler de drogue, vous parlez des somnifères, somnifères avec lesquels vous êtes assez sévère ou juste, ça dépend du point de vue. Somnifères qui, selon vous, n'apportent pas le sommeil, c'est ce que vous écrivez, c'est assez perturbant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Eh oui, ça n'existe pas, en fait, les somnifères. Le mot somnifère est une escroquerie intellectuelle.
Ça veut dire quoi, somnifère ?
C'est un abus de langage. Somnis ferré, en latin, c'est qui apporte le sommeil. Or, moi, si j'enregistre quelqu'un qui a pris un entre guillemets somnifère, mais il ne dort pas. C'est une anesthésie légère. Rien de plus. C'est pas du vrai sommeil. Et d'ailleurs, les gens qui dorment, soi-disant, sous somnifères, sont fatigués.
Mais il y en a beaucoup, effectivement.
Et deuxième chose, c'est qu'en plus, c'est idiot. Parce qu'il est montré qu'au bout de 3 semaines, le somnifère n'entraîne même plus cette perte de conscience, cette anesthésie.
C'est que ça ne marche plus au bout d'un moment.
Il marche plus. Mais les gens disent, si, je vous assure, je dors bien. Moi, je suis très
content.
Pourtant,
il y a des personnes qui en prennent des années et des années.
Ça fait des années que je dors. Et moi, je les enregistre. Et puis, je dis, ben non, vous ne dormez pas. Donc, qu'est-ce qui explique la discordance entre eux? Mais si, je dors. Ah non, vous ne dormez pas. Tout simplement, c'est que l'effet sédatif soporifique s'épuise en 2-3 semaines, mais l'effet amnésiant ne s'épuise jamais. Parce que c'est le pic d'absorption.
Ça nous fait oublier qu'on ne dort pas, c'est
ça ? Exactement. Oh, c'est une amnésie de l'insomnie. Donc le bénéfice est léger.
Il n'y a aucun intérêt, en fait.
Et oui, et en plus, c'est donc un des produits qui tue. Puisqu'il y a des études qui montrent que la mortalité est nettement augmentée si on en prend. Et puis si on survit, ben, on risque d'aller tout droit.
Mais on meurt de quoi si on prend des somnifères pendant des années ?
En fait, c'est les apnées du sommeil. Ça provoque beaucoup d'apnées du sommeil, donc de l'hypertension, donc des infarctus, des AVC ou un Alzheimer, si on ne meurt pas.
Bon. Alors certains ne prennent pas de somnifères, mais vont prendre des anxiolytiques. Et là encore, vous êtes extrêmement sévère avec ces anxiolytiques.
C'est la même chose. C'est exactement la même chose.
Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un anxiolytique, c'est du Xanax, du Lexomil, du Seresta.
Du Tranxène, du Valium.
Pour être moins anxieux, pas pour dormir normalement.
Mais c'est pareil, c'est les mêmes molécules, c'est ce qu'on appelle des benzodiazépines.
Ça nous anesthésie.
Simplement, les mauvaises langues disent que les somnifères ne sont rien d'autre que des tranquillisants trop dosés.
D'accord. Donc, en plus de cela, vous dites que pourtant, ces médicaments, donc, ils sont très, très, très consommés. Donc, vous dites, nous font oublier qu'on a dormi. Mais ça, je ne comprends pas bien. Comment on peut oublier qu'on n'a pas dormi, je veux dire ?
Parce que c'est une amnésie. De la même manière, par exemple, si vous avez des apnées du sommeil, les gens vous disent, j'ai dormi 10 heures comme une souche. Et au réveil, c'est comme si j'avais passé une nuit blanche. Pourquoi ? Et moi, j'enregistre leur sommeil et je vois qu'ils se réveillent 60 fois par heure.
60
facilement.
Fois.
Et ils me disent, mais non, je ne me suis pas réveillé.
Sous somnifère,
en fait,
donc.
Pour mémoriser. Non, les apnées du sommeil, c'est
apnées,
un parallélisme.
Ouais.
C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle agrypnagnosie, un terme barbare pour expliquer la non-perception de l'éveil. De même qu'il y a des gens qui dorment, qui disent, j'ai pas fermé l'œil, c'est l'hypnoagnosie. Donc tout ça, en fait, il se passe la nuit des trucs dont on n'est pas toujours conscient.
Alors vous proposez des solutions naturelles, très pratiques, dans votre livre pour mieux dormir. Alors vous parlez des plantes. Est-ce que certaines plantes pourraient nous aider à mieux dormir ? On connaît la camomille, une des tisanes.
C'est vraiment efficace, ça ?
Est-ce que c'est efficace ?
Alors, il y a des plantes qui ont une tradition, comme la camomille, le tilleul, mais pas de démonstration scientifique. En revanche, il y a des plantes comme la valériane, comme Escoltia, qu'on appelle le pavot de Californie, la passiflore, qui ont des études très bien faites, notamment valériane passiflore, à tel point que la passiflore a une autorisation de mise sur le marché, AMM, européenne. Et qu'il y a des pays comme la Belgique ou l'Espagne où il est sur ordonnance et remboursé. La rhodiole, comme tranquillisant dans la journée, mais qui permet de préparer sa nuit, est également intéressante. Si vous avez une insomnie dépressive, l'association de safran et de rhodiole, il y a des démonstrations scientifiques. Je suis en train d'ailleurs de lancer une étude double aveugle versus placebo dans la dépression avec insomnie, qui va marcher, j'en suis sûr. Il y a des tas d'études. Il y avait une étude faite par le CNRS quand même, excusez-moi du peu, qui a comparé le Prozac et le millepertuis, et c'est le millepertuis qui a gagné dans la dépression.
Dans la même ambiance, vous proposez aussi de faire une supplémentation en zinc. Ça paraît tout bête, mais prendre du zinc nous permettrait de mieux dormir.
Oui, et en plus, c'est aussi bon contre le Covid, puisque c'est aussi immunostimulant. C'est vrai que le zinc, il y a des études qui montrent bien qu'en cas de carence en zinc, on dort moins bien, et qu'en cas de supplémentation en zinc, on dort mieux.
Et faire du sport aussi, ça fait dormir.
Mais
alors, quel sport, à quelle heure, voilà, j'allais dire. Donnez-nous le
si
dernier
vous
pour ce dernier conseil.
Un match de squash juste avant de vous mettre au lit,
ça,
je ne garantis pas le résultat.
Alors, on fait quoi ?
Alors, l'idéal, toujours remonter la température le matin. Donc, l'idéal, c'est le matin. Il y a le boulot aussi. Donc, si on le fait le soir, il faut quand même prévoir une période tampon de 2-3 heures avant de se coucher entre le sport. Sauf la piscine, parce que la piscine, ça refroidit. Donc, c'est pas mal.
Très bien.
Et puis, on peut très bien faire un match de foot le soir. Et puis ensuite, on prend un bon bain bien tiède, longuement. On ne se sèche pas rapidement et on abaisse sa température.
Et ça devrait marcher. Merci beaucoup, docteur Lemoine, d'avoir été avec nous cet après-midi pour nous guider donc vers des nuits enfin plus sereines. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne fais que conseiller une nouvelle fois votre livre qui est passionnant, « Docteur, j'ai mal à mon sommeil », paru aux éditions Odile Jacob. Merci encore, docteur. Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors à présent, on va parler d'innovation en cancérologie. On aime dans cette émission vous parler des progrès, des avancées, toujours au profit des patients et là, des malades du cancer. Pour ce faire, nous accueillons tout de suite en ligne avec nous le professeur Eric Deutsch. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de radiothérapie à l'Institut Gustave Roussier à Villejuif et vous dirigez également une équipe de recherche qui est constituée de médecins, de mathématiciens, de physiciens, d'ingénieurs. Tous mettent leurs compétences en commun pour améliorer la prise en charge du cancer et notamment grâce à l'intelligence artificielle. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'on appelle finalement intelligence artificielle ?
L'intelligence artificielle, c'est en gros d'utiliser, de développer des programmes pour apprendre, raisonner, classer, notamment classer des images, avec des programmes, avec des ordinateurs.
Et alors, avec votre équipe, vous avez réalisé une étude en partie financée par la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM, qui a permis de prédire la réponse à un traitement contre le cancer. Expliquez-nous quel était un peu le contexte de départ.
Voilà. Alors, le contexte de départ, c'est que l'immunothérapie est une révolution en cancérologie et les principaux médicaments qui sont aujourd'hui utilisés en routine en cancérologie, qui sont l'immunothérapie, réveillent des lymphocytes qui vont aller induire une immunité antitumorale. Et donc, on sait que ces traitements rendent des services énormes dans plein de situations, mais pour que ce traitement puisse être efficace, il faut qu'il y ait des lymphocytes dans la tumeur et que l'immunothérapie puisse les réveiller. En gros, l'immunothérapie marche quand elle va activer des lymphocytes s'il y a des lymphocytes dans la tumeur. Et malheureusement, les patients pour lesquels il n'y a pas de lymphocytes dans la tumeur, ceux-là ne bénéficient pas d'immunothérapie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, en fait, une banque de données qui était constituée de prélèvements de tumeurs de patients pour lesquels on savait s'il y avait ou pas des lymphocytes. Et on avait en même temps les scanners de ces patients. Et on a en fait entraîné, développé un algorithme pour, à partir d'une image, être capable de retrouver la présence ou l'absence de lymphocytes dans une tumeur. Et ensuite, ce qu'on a pu faire, c'est montrer que l'algorithme qu'on avait développé, il était aussi bien que le microscope avec un médecin spécialiste pour voir s'il y avait ou pas des lymphocytes dans la tumeur. Et il était capable de corréler avec la réponse au traitement de patients traités par immunothérapie. Voilà. Et depuis, ces travaux ont pu être confirmés par d'autres études internationales.
Alors, dans votre laboratoire, vous utilisez également l'intelligence artificielle pour améliorer la radiothérapie. Ça veut dire que la radiothérapie actuelle, elle est pas encore au top ?
Ça veut dire que la radiothérapie, c'est un traitement qui a 100 ans et qui est en constante évolution et qui bénéficie des progrès de l'imagerie, de l'informatique et des progrès de la biologie. Donc il y a une évolution permanente et ce qu'on veut faire, c'est la rendre plus efficace, moins toxique, mieux cibler les zones qu'on veut traiter et mieux définir les doses qu'on veut donner. Et pour ça, l'intelligence artificielle peut nous aider énormément.
Et ça sera pour quel cancer, à quel horizon ?
Alors, la radiothérapie, c'est le deuxième contributeur à la guérison des cancers après la chirurgie. Donc, c'est utilisé pour la quasi-totalité des tumeurs en pratique courante. Et c'est déjà une réalité, puisqu'on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour définir les volumes cibles qu'on veut traiter. C'est quelque chose qui, normalement, est fait à la main, mais qui, maintenant, est fait grâce à l'intelligence artificielle. Et ça nous fait gagner à la fois énormément de temps, mais ça aussi nous fait gagner en précision. Et donc, plus on est précis, plus on est efficace et moins on est toxique.
Très bien.
Donc, c'est essentiel.
Merci beaucoup, professeur Deutsch, d'avoir été avec nous pour cet éclairage donc, sur cette avancée en cancérologie.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 tous les jours, bien sûr. Nous sommes avec vous depuis 15h et c'est la dernière séquence de l'émission que vous attendez, bien sûr. La Catherine Blanc. Dimi, la chronique que vous préférez. Donc c'est pour ça que je dis la Catherine Blanc. C'est
et
comme ça qu'on l'appelle.
Et celle de toute la régie d'Europe 1.
Voilà,
c'est ça aussi,
précisons, précisons. Alors Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Florian. Florian, il nous dit la chose suivante. À 35 ans, je suis toujours puceau. J'espère rencontrer un jour ma moitié, mais j'ai peur que mon manque d'expérience sexuelle fasse fuir les femmes. Catherine. Pour commencer, on va rassurer tout de suite Florian, parce que je sais que vous aimez toujours rassurer. Il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de règles. Être toujours puceau à 35 ans, bah ça ne veut pas dire qu'il ne trouvera pas l'amour prochainement.
Ça ne veut pas dire, évidemment. Maintenant, il faudrait qu'il ne cherche pas sa moitié, parce qu'il va chercher une personne tout entière. Et lui-même est tout entier. Et évidemment qu'à partir du moment où on cherche sa moitié, on cherche son...
Vous avez vu comme elle a tiqué sur un truc, le mot la moitié, alors que moi, je n'avais même pas réalisé. Ça, c'est vraiment... Les psys voient des choses qu'on n'entend pas. Nous,
comment hein.
C'est un métier.
Comment vous dire, c'est un métier. Merci, Jimmy.
Donc, pas la moitié, il faut chercher une personne entière.
Et oui, parce qu'à partir du moment où je me cherche moi au féminin, évidemment que j'ai quand même peu de chances de me trouver. Et évidemment que ça m'ouvre peu sur l'autre, dans sa différence. Et l'aventure, justement...
D'ailleurs, je joue un peu ma psy, mais ce n'est pas bizarre de se chercher soi, quand même. Enfin, je ne sais pas, quand on cherche l'amour... quelqu'un d'autre, non
En fait, non. Assez naturellement, nous sommes assez narcissiques. Nous cherchons des choses qui nous parlent et qui parlent de nous, qui parlent de ce que nous aimons, qui parlent de ce que nous avons rencontré. Mais c'est justement au détour de cette recherche très immature de notre petite enfance que nous allons découvrir l'autre dans sa différence et dans tout ce que ça ouvre de possibilités de nous faire grandir, de nous épanouir, etc. Mais assez naturellement, nous sommes un peu préoccupés par nous-mêmes, bien sûr.
Vous dites qu'on n'aime pas beaucoup la normalité, mais néanmoins, si on prend des statistiques, être toujours puceau à 35 ans, on sort de la norme.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on est loin de la fréquence moyenne, justement, des personnes qui ont déjà eu des rapports sexuels.
C'est 17 ans et demi, je crois que ça ne bouge pas, le
non,
premier
ça
rapport.
Bouge pas. Oui. Ouais,
donc
c'est
on
ça.
Est très loin de ces 17 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème? Et est-ce que le fait de dire « je cherche ma moitié », est-ce que c'est vraiment le souci? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière qui pourrait cacher le fait qu'on a du mal à aller vers cette relation sexuelle?
Alors, vous avez raison, effectivement. Bien sûr qu'à chacun son temps, mais on peut effectivement noter que ce temps tarde.
35 et dans ans, c'est pas commun.
Et dans la mesure, voilà, mais dans la mesure où il tarde, ça pose évidemment la question de tout ce qui a été à l'origine des empêchements. On ne peut pas seulement dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé la personne qui est mon âme sœur ou
puis
ma
un
moitié,
homme à 35
etc.
ans, c'est plus rare encore, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas, ça peut un peu le complexer, justement, par rapport aux
autres.
Oui,
parce qu'en plus, on attend de la part de l'homme qu'il soit initiateur, qu'il ait déjà toutes les connaissances du monde, comme si une femme n'avait pas la compétence à sa propre sexualité et qu'elle ne pouvait le découvrir qu'à l'aune d'un homme qui, lui, avait déjà tous les codes et le mode d'emploi. Donc, ce qui met un peu plus de pression encore aux hommes. Donc, effectivement, dans la mesure où ça ne s'est pas produit jusque-là, ça pose la question du pourquoi de ces loupés. Pourquoi pas de rendez-vous?
Pourquoi
pas
timide,
de passage à l'acte? Pourquoi
non,
cette timidité? Pourquoi cette peur du féminin, peut-être? Pourquoi cette recherche de quelqu'un qui, année après année, est encore plus défini et donc encore moins crédible dans le réel, puisqu'à force d'être redessiné, eh bien, il ne correspond en rien à la réalité. Évidemment que toutes ces questions, vous avez raison, Jimmy, se posent, et ça ne veut pas dire que c'est un symptôme, mais c'est symptomatique d'une impossibilité qui mérite de s'y arrêter un temps soit peu pour essayer de comprendre à quoi on joue, ou n'est-ce pas simplement un mécanisme d'évitement ou de croyance que c'est avec une femme peut-être que je veux créer une relation et qu'en fait, j'évince un autre sujet qui est peut-être une interrogation quant à réellement et mon désir et mon excitation et le genre qui m'attire, etc.
Et plus le temps passe et plus il tarde à avoir cette relation sexuelle, peut-être aussi ça peut aussi effrayer la partenaire qui va être en face et donc entretenir un cercle vicieux. S'il annonce à quelqu'un qu'il est vierge à 35 ans, bah peut-être que la personne en face va être un peu paniquée et donc il va se mettre des bâtons dans les roues peut-être tout seul à mesure que le temps passe. Vous êtes peut-être maladroit de ma part
alors,
de dire ça.
Pour continuer sur faire une boutade sur les mots des psys, ça pour être paniquée, elle n'est pas niquée. Effectivement.
Pardonnez-moi. Là, c'est un mot de petit, je ne sais pas, mais ouais, d'accord.
Mais bon, ceci étant, voilà,
un jeu de mots,
plaisanterie mise à part, je pense qu'il y a tout type de femmes. Il y a des femmes qui vont adorer l'idée d'être celles qui vont initier cet homme, parce que, encore une fois, les femmes ne sont pas des oies blanches, elles ont une compétence de la sexualité et elles peuvent tout à fait avoir envie
d'être la première.
D'être la première et de montrer la voie et de montrer une idée de la féminité en fonction de ce qu'elles ont, offrent, connaissent,
etc. Donc il y a même des femmes qui peuvent
etc.
être attirées par ça, peut-être. Alors.
Bien sûr, qui aiment jouer
tous
les maîtresses
sont dans la nature, bien sûr.
Au sens de faire grandir, d'apprendre, etc. Par contre, d'autres qui attendent évidemment d'être révélées par le biais d'un homme
peuvent être charmées par ça. Ouais.
Elles pourraient être inquiètes. Et d'autres encore auront le sentiment d'avoir un rôle maternant.
Ça lui laisse des possibilités quand même, c'est
oui,
positif.
Oui, il y a des possibilités. De toute façon, on ne plaît pas à tout le monde, quoi qu'il en soit.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve bien sûr demain à la même heure dès 15h.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.
Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Comme tous les après-midi, ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Esprit, es-tu là ?
Je suis sûr que Mélanie, vous y croyez. Hein. Oui, je le vois bien, je vois bien. Esprit, tu... des férus de spiritisme aujourd'hui. Victor Hugo.
Victor Hugo, il
faisait tourner les tables. Oui. Camille Flammarion, alors lui, il était scientifique, mais il y croyait dur comme fer. Hein. Oui. Et si je mange, je vais en enfer. Et vous avez choisi qui ?
Stéphane, vous connaissez Led Zeppelin ?
Bien sûr, avec le meneur de Jimmy Page.
Jimmy Page, le guitariste du groupe. Bah, figurez-vous que c'était un grand occultiste. Il était absolument fasciné par l'occulte. Il a même acheté un manoir en Écosse, sur les rives du Loch Ness. Où il a vu des fantômes. Oui, Mélanie, trembler.
Et vous savez que Philippe Charlier va nous accompagner pendant toute l'émission. Et ça, c'est un événement, quand même.
Merci beaucoup, messieurs. On adore, ça a l'air bien mystérieux. On reste à l'écoute, comme tous les jours, bien sûr. Et vous aussi, n'hésitez pas, restez sur Europe 1.